le journal présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Patrick Balkany en prison à la santé ce soir. Le maire de Levallois-Perret a été condamné à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale. Sa femme, Isabelle Balkany, écope elle de 3 ans ferme. Explications et détails du jugement dans un instant avec Florence Sturm. Reportage de Rosalie Lafarge à Levallois-Perret. Un changement de doctrine en vue pour les interventions policières de maintien de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner faisait un point tout à l'heure sur l'enquête administrative dans l'affaire de la mort de Steve Maya Canisso le 21 juin dernier à Nantes. Explication à suivre et point sur le rapport de l'IGA avec Antoine Marette. La grève à la RATP comme un coup de semonce lancé par les grandes organisations syndicales sur le sujet de la réforme des retraites. Nous écouterons Karen Marquez de Sud RATP dans ce journal. Journal qui se terminera par l'enquête du service d'investigation de Radio France sur l'affaire des assistants parlementaires européens du Modem. Ce sera avec Élodie Guéguin. Le maire de Levallois-Perret est donc désormais en prison. Patrick Balkany a été condamné à la mi-journée aux côtés de sa femme Isabelle pour fraude fiscale. Tous deux ont été reconnus coupables de dissimulation méthodique de leur patrimoine. La peine prononcée, qui est de 4 ans de prison ferme pour Patrick Balkany, a été assortie d'un mandat de dépôt. Il a été ainsi immédiatement conduit vers la prison de la santé à Paris. Isabelle Balkany, elle, a été condamnée à 3 ans de prison ferme sans incarcération pour raison de santé. Bonsoir Florence. Sturm.
Bonsoir.
Vous étiez tout à l'heure au palais de justice de Paris. Le tribunal correctionnel a suivi les réquisitions du parquet national financier qui avait demandé de la prison ferme contre, je cite, un grand fraudeur fiscal baignant dans un océan d'argent liquide.
Oui, silence total dans la salle quand le président commence la lecture du jugement, les yeux rivés sur son dossier. Patrick et Isabelle Balkany debout à la barre face à lui. Et tout de suite, la neutralité de ton contraste avec le choix des mots, les infractions dont se sont rendus coupables les époux Balkany ont gravement porté atteinte à l'ordre public et économique, aggravé la déchirure désormais ancienne du pacte républicain. Isabelle Balkany demande à s'asseoir, puis revient passer le bras autour de la taille de son mari lorsque la peine tombe pour lui. Le président insiste sur la nécessité d'une réponse pénale particulièrement ferme et dissuasive après le lourd dommage causé à la confiance nationale. 4 ans de prison ferme, donc, assorti surtout de ce mandat de dépôt demandé par le parquet national financier et contre lequel s'insurge aussitôt Éric Dupond-Moretti, l'avocat du maire de Levallois.
Ces faits étaient des faits anciens. On a résumé toute l'action de M. Balkany à sa fraude et toute sa vie à cette fraude. Mais ce qui me choque le plus, c'est évidemment le mandat de dépôt qui est une humiliation totalement inutile et pour nous insupportable. Je pense qu'on s'est payé Balkany aujourd'hui. Nous allons bien sûr interjeter appel et nous n'acceptons pas que l'on se soit payé Balkany. Ce que nous attendons, c'est que Balkany soit jugé. Et c'est singulièrement différent.
Voilà, l'appel qui a été annoncé par Éric Dupond-Moretti cet après-midi n'évitera pas la prison dans l'immédiat à son client, même s'il a déposé déjà une demande de remise en liberté. Florence, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre maintenant?
Alors Patrick Balkany va rester en détention le temps que soit examinée sa demande de mise en liberté, a priori dans un délai de 2 mois. En revanche, et contrairement à ce mandat de dépôt, les 10 ans d'inéligibilité prononcés à l'encontre de chacun des prévenus, de son épouse et de lui, cette peine n'est pas immédiatement exécutoire. Autrement dit, Patrick Balkany reste maire de Levallois et son épouse première adjointe tant qu'un nouveau procès en appel, puisqu'on sait désormais qu'il y aura un nouveau procès, n'a pas confirmé ou infirmé cette peine. Mais avant même ce procès en appel, Patrick et Isabelle Balkany reviendront devant ce même tribunal le mois prochain, le 18 octobre, pour entendre la seconde partie du jugement dans le volet consacré cette fois au blanchiment de fraude fiscale. Le parquet national financier avait en l'occurrence requis 7 ans de prison à l'encontre de Patrick Balkany, toujours avec un mandat de dépôt à l'audience.
Merci Florence Sturm. De son côté, Isabelle Balkany dit maintenant vouloir assurer la continuité à la mairie de Levallois-Perret, puisque la peine de 10 ans d'inéligibilité qui la frappe n'est pas encore effective. Elle conserve son siège de première adjointe à quelques jours d'un conseil municipal qui s'annonce particulier. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Vous êtes en direct avec nous depuis Levallois-Perret, où on se dit surpris. Ce soir.
Oui, c'est quand même une relative surprise ici à Levallois. La condamnation en elle-même, pas forcément. L'envoi en prison de Patrick Balkany dès la fin du procès, beaucoup plus.
La prison, c'était pas peut-être nécessaire. Ceci dit, c'est un bon jugement. À Levallois, on savait quand même qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales.
Mais pour beaucoup de Levalloisiens croisés sur le parvis de la mairie, comme Daniel, une retraitée, cette décision relève tout simplement de l'acharnement.
Pourquoi la justice passe pour M. Balkany et ne passe pas pour d'autres? Hein, vous allez me le dire. Où vous placez l'honnêteté, vous? Alors pourquoi s'acharner sur M. Balkany? Parce qu'il y a beaucoup de jalousie, parce qu'on voudrait bien la place de M. Balkany.
On a voulu se les payer, les Balkany, peut-on entendre ici. Et si elle n'utilise pas ces mots, Isabelle Balkany, première adjointe et épouse du maire, en partage le fond.
J'ai de quoi être abasourdi, parce que pendant la lecture d'une partie du jugement, le président a tenu à rappeler deux fois qu'il n'y avait pas un centime d'argent public. Alors certes, nous avons commis une faute vis-à-vis du fisc. Toute faute doit être assumée et mérite sanction. Mais là, la sanction est totalement disproportionnée.
Même du côté de l'opposition, on est choqué de savoir Patrick Balkany en prison ce soir. Mais ce qui devait arriver arriva, résume en quelque sorte Arnaud de Courson, le président du seul groupe d'opposition au conseil municipal.
Quelqu'un qui fraude ses impôts, il est normal qu'il soit condamné. Deuxièmement, en tant qu'élu, nous nous devons d'être exemplaires et pas de frauder les impôts. Et donc la peine d'éligibilité me semble tout à fait normale. Maintenant, en mars prochain, il y aura des élections et c'est vers ça qu'on va se projeter.
Mais les Balkany n'ont pas dit leur dernier mot pour les prochaines municipales. Et pour le moment, vous l'avez dit, Isabelle Balkany, en tant que première adjointe, assure l'intérim tant que son mari est en prison.
Merci Rosalie Lafarge avec Laurent Lucas pour les moyens techniques depuis Levallois-Perret. Il est visiblement toujours aussi compliqué d'établir précisément les circonstances de la mort de Steve Maya Canisso à Nantes le soir de la fête de la musique. Le jeune homme avait été retrouvé mort dans la Loire. Et depuis le 21 juin, sa famille et ses soutiens sont convaincus que c'est la charge policière en direction du quai Wilson et à grand renfort de gaz lacrymogène qui est responsable directement du drame. Tout à l'heure, Christophe Castaner faisait un point sur l'enquête administrative en cours. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Le ministre de l'Intérieur a annoncé une évolution à venir dans la doctrine d'intervention des forces de l'ordre dans les cas similaires. Il a également annoncé à plus court terme que le commissaire chargé de l'intervention à Nantes ce soir-là sera muté pour avoir manqué de discernement. Mais que dit précisément le rapport de l'inspection générale de l'administration, Antoine?
Eh bien, il met en cause plusieurs acteurs, à commencer par la ville de Nantes et la préfecture de Loire-Atlantique. Les deux étaient investis du pouvoir de police. Elles auraient pu interdire l'événement sur l'île de Nantes ou, par exemple, en ce qui concerne la ville, mettre en place des barrières pour éviter que les teufeurs ne chutent dans la Loire. La préfecture, de son côté, aurait dû préparer l'événement avec les associations organisatrices. Responsable également et surtout le sound system qui a refusé de couper le son à 4h du matin, contrairement aux autres. C'est selon le rapport ce qui est à l'origine des premières violences. Responsable enfin le chef du dispositif de surveillance générale. L'inspection générale de l'administration s'interroge sur le bien fondé de la manœuvre opérée. Les gaz lacrymogènes ont fortement altéré la visibilité sur le quai Wilson et du coup, 7 personnes ont chuté dans la Loire pendant l'intervention. 5 policiers ont été blessés. Le rapport met également en lumière l'absence de communication entre la direction départementale de la sécurité publique d'un côté et la préfecture et la ville de l'autre, qui n'ont pas été informés à temps de la tournure des événements et qui n'ont pas pris les mesures qui s'imposaient. Sur la mort de Steve Maya Canisso, on n'en saura guère plus pour le moment. Cette mission avait pour seul but de décrypter l'organisation de cette fête de la musique sur le quai Wilson et l'intervention de la police pendant la nuit.
Merci Antoine Marette. La grève à la RATP aujourd'hui avec de grosses perturbations, de nouveau visibles à Paris ce soir, à Paris et en Ile-de-France. C'est la réforme des retraites qui a provoqué ce mouvement de grève qui pourrait n'être, malgré l'importance de la mobilisation, qu'un coup de semonce. Écoutez Karen Marquez de Sud RATP, elle est conductrice de métro en charge de l'exploitation ferroviaire au sein du syndicat Sud RATP.
On a eu plusieurs avis ce matin, donc certains voudraient partir en illimité à partir du 24 septembre. D'autres demandent à aller sur un préavis de 24 heures. Maintenant, la RATP, à elle tout seule, ne peut pas combattre le projet de réforme qui impacte l'ensemble des personnes au niveau national. Et donc, il faut que chaque personne qui travaille soit concernée par ce qui est en train de se passer, puisque la réforme par points verra une baisse généralisée pour l'ensemble des gens. Et ce qui est très énervant, c'est qu'on veut monter les gens les uns contre les autres, alors qu'en fait, nous, on se bat aussi pour tout le monde. Puisqu'en fait, la réforme par points vous impactera vous, ça impactera tout le monde. Et donc, nous, on construit un mouvement au niveau interprofessionnel. On appelle vraiment tous les responsables des autres entreprises et même plus largement sur le plan national à venir nous rejoindre et qu'on se mette au point sur un plan de bataille et de lutte. Et donc, si on repart, on repartira en illimité.
Des propos recueillis par Anne-Laure Jumet. En Argentine, après la crise politique et économique, la crise sociale. Depuis deux jours, des Argentins en colère et une partie du secteur associatif campent sur l'avenue principale de Buenos Aires pour exiger plus d'aide de l'État. Pour tenter de faire face à la dégradation rapide des conditions de vie dans le pays où plus d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté, les députés viennent de voter presque à l'unanimité une actualisation de la loi d'urgence alimentaire. Le reportage sur place à Buenos Aires de Caroline Vic.
En plein centre-ville et au pied du ministère du Développement social, des feux de camp, des casseroles fumantes, des dizaines de tentes, de matelas et des centaines de personnes emmitouflées dans des couvertures. Parmi elles, Hector, 25 ans, venu pour exprimer sa colère et son désespoir.
On essaye de lutter, on a juste besoin de travail ici en Argentine, c'est tout. On crève de faim. Si on n'a pas de travail, on ne peut pas manger, mais toutes les usines ferment. Aujourd'hui, je dois penser à payer la bonbonne de gaz, demain je dois mettre de côté pour manger. C'est désespérant.
Les organisations sociales réclament depuis des mois plus de moyens pour les cantines scolaires et les soupes populaires, notamment Marta de l'association Barrios de Pie.
Dans les soupes populaires, on est passé de 30 à 70 personnes, des enfants avec leurs parents, des personnes âgées. On voit bien que certains enfants ne mangent qu'une fois par jour. Et souvent, on doit mettre de l'argent nous-mêmes pour acheter des légumes et un peu de viande. C'est pour ça qu'on est là avec mes camarades. C'est la seule manière de se faire entendre.
Une mobilisation qui a abouti à l'écriture d'un projet de loi décrétant l'urgence alimentaire jusqu'en 2022 et prévoyant notamment une augmentation de 50% du budget des politiques publiques d'alimentation et de nutrition. Un texte approuvé hier au Parlement et attendu au Sénat dès la semaine prochaine.
Reportage de Caroline Vic. La compagnie aérienne KLM renonce à la liaison quotidienne qu'elle effectuait jusqu'à maintenant entre Bruxelles et Amsterdam. À partir de mars prochain, c'est par le train que cette liaison sera proposée par KLM qui va acheter des sièges dans le Thalys, tout aussi rapide et beaucoup moins polluant. Des nouvelles des Beatles maintenant. Des nouvelles inédites qui viennent tout juste d'être découvertes, qui justifient que nous partions immédiatement pour Londres. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Notre correspondant permanent au Royaume-Uni. On pensait tout savoir, Antoine, sur les Beatles et notamment sur la raison de leur séparation. Mais les enregistrements inédits découverts tout récemment nous offrent une autre perspective sur la fin des Fab Four. En résumé, Antoine, on découvre, contrairement à ce qu'on croyait, que Abbey Road, le dernier album des Beatles en 69, n'était pas programmé pour être l'ultime album.
Exactement, oui, l'album Abbey Road, c'est le testament des Beatles jusqu'ici. On pensait qu'à sa sortie en septembre 69, la décision de tout arrêter était déjà actée dans la tête des Fab Four à cause d'une succession de désaccords, à cause surtout de l'arrivée de Yoko Ono, la compagne de John Lennon, trop présente dans les studios d'enregistrement, trop intrusive et à l'origine de tensions. Eh bien, ça ne s'est pas passé du tout. Comme ça, la preuve dans cette cassette audio que vient d'exhumer l'historien des Beatles, Mark Levison. Nous sommes le 8 septembre 1969, à Londres, dans les locaux de la maison de disques des Beatles. Ringo Starr est à l'hôpital et le groupe décide d'enregistrer les échanges pendant une réunion de travail pour qu'il puisse entendre ce qui se dit. Le ton est très détendu et premier choc, les Beatles parlent de leur prochain disque. John Lennon propose d'ailleurs de mélanger quatre chansons à lui avec quatre composées par Paul McCartney, quatre de George Harrison et deux de Ringo. Et là, deuxième choc, on entend Paul McCartney dire que jusqu'à très récemment, il trouvait les compositions de George Harrison franchement pas terribles. Réponse de l'intéressé, c'est une question de goût. S'en suivent des discussions sur la qualité des chansons des uns et des autres, des critiques de John Lennon à l'encontre de Paul McCartney qui vont effectivement aboutir quelques mois plus tard à la séparation.
Merci beaucoup Antoine Gignot, en direct de Londres. Un nouvel exemple d'arnaque au hameçonnage sur Internet. Un jeune homme de 20 ans a été arrêté en début de semaine dans le cadre d'une enquête sur une vaste tentative d'arnaque à la webcam. On vient de l'apprendre, il est suspecté d'avoir voulu faire chanter au moins 28 000 internautes en les menaçant de diffuser de prétendues images intimes. L'homme disait avoir piraté ces images sur l'ordinateur des victimes et l'arnaque était techniquement si élaborée qu'une cinquantaine de personnes a cédé au chantage, ce qui représente un préjudice total de 20 000 euros. Explication de Maxime Tellier.
Et cette arnaque s'inscrit dans une vague plus large de chantage aux images intimes, de plus en plus sophistiquée. Jérôme Notin dirige cybermalveillance.gouv.fr, un site qui vient en aide aux victimes sur Internet.
Ça a totalement explosé en 2019, hein, fin janvier, début février. Ça représentait jusqu'à 80% des demandes d'assistance sur notre site. Donc le crypto-porno, c'est quoi? C'est un courriel que vous recevez qui vous dit « Vous êtes allé sur un site pornographique, j'ai piraté votre ordinateur, j'ai activé activez votre caméra, je vous ai filmé, j'ai enregistré un fichier, et si vous ne me payez pas quelques centaines d'euros en crypto-monnaie, en bitcoin principalement, eh bien je vais diffuser à votre entourage cette vidéo.
Et ce qui rendait cette attaque convaincante, c'est que le pirate vous envoyait un message depuis votre adresse mail en ayant piraté le protocole de messagerie. Il citait également l'un de vos mots de passe, un réel, actuel ou ancien, exploitant en fait des fuites de bases de données qui ont eu lieu dans le passé. Mais le reste était faux, notamment le piratage de votre webcam. Une cinquantaine de personnes ont quand même payé la rançon.
On a un terme dans notre domaine, c'est la pêche au chalut, c'est-à-dire qu'on va essayer d'attraper le maximum de personnes et puis certaines vont plus facilement tomber dans le filet des pirates, effectivement.
Et d'autant que les techniques sont variées, hein. Il y a aussi le faux réparateur. Des pirates font apparaître un message d'alerte sur votre ordinateur avec un numéro de téléphone. Quand vous les appelez, ils vous installent un logiciel, soi-disant un antivirus, mais qui permet en fait de contrôler votre ordinateur à distance et de voler vos données. Pourquoi pas de l'argent? Dans tous les cas, quand vous recevez un mail suspect, eh bien effacez-le et ne cliquez pas sur le lien. N'ouvrez surtout pas la pièce jointe.
Maxime Tellier, 18h16 sur France Culture, la suite du journal avec un retour sur l'affaire des assistants parlementaires européens du Modem, soupçonnés d'avoir été des emplois fictifs. Une affaire qui embarrasse grandement le parti de François Bayrou depuis 2 ans. Cette semaine encore, le fondateur du Modem, Marielle de Sarnez, et la nouvelle commissaire européenne Sylvie Goulard ont été entendus par la police. Aucun des 3 responsables n'est pour l'instant mis en examen, mais les enquêteurs poursuivent leur travail. Bonsoir Élodie Guéguin.
Bonsoir Benoît.
Vous enquêtez depuis 2 ans sur cette affaire en compagnie de Sylvain Tranchet. Où en êtes-vous de votre connaissance du dossier judiciaire?
Eh bien, depuis 2 ans, les policiers recueillent des documents, des témoignages, dont certains semblent bien montrer que l'UDF puis le Modem ont utilisé des assistants européens au service du parti, ce qui a pu même provoquer parfois la colère de députés centristes. C'est ce qu'est venu raconter aux policiers une ancienne collaboratrice de Jeannelly Fourtou, dont nous avons fait lire le témoignage.
Je me souviens qu'une fois, Madame Fourtou s'était énervée que je ne fasse rien pour elle et j'avais dû faire pour elle un tableau Excel. En fait, j'ai essentiellement travaillé pour l'UDF. Je me suis occupée de l'organisation des 16 colloques pour François Bayrou. Selon moi, ces colloques sont le socle du programme de François Bayrou pour la campagne présidentielle.
Et l'ancienne eurodéputée Jeannelly Fourtou nous a confirmé que cette assistante payée par l'Europe n'avait jamais travaillé pour elle.
Mais alors ça va beaucoup plus loin, hein, elle a dit.
Oui, les policiers se demandent si certains assistants européens n'ont pas été utilisés à des tâches qui ne relèvent pas du tout de la vie politique. Écoutez par exemple cette série de SMS que Marielle de Sarnez, la numéro 2 du Modem, envoie à sa collaboratrice et que nous avons fait lire.
Aurais-tu gardé les coordonnées de la personne qui est venue réparer les gouttières il y a quelque temps chez moi? C'est le syndic qui te l'avait donné. Il paraît que j'ai pas renouvelé mon contrat annuel chez Cellogaz. Merci de vérifier. Karine, peux-tu me dire, si possible, quel était le devis initial de l'entreprise pour mes travaux à l'Île-Dieu? Sais-tu combien je donne par heure à Brigitte, ma femme de ménage, à Yeux?
Et devant les policiers, l'assistante à qui sont adressés ces messages a reconnu que son travail pour l'Europe était dérisoire. Les enquêteurs l'écrivent, le Modem avait des difficultés financières et les enveloppes des députés européens ont pu être une opportunité.
Et alors, est-ce qu'on a, Élodie, une idée de l'ancienneté de ces pratiques?
Alors, les policiers sont remontés jusque dans les années 90. Ils ont recueilli, par exemple, le témoignage d'un assistant de Force démocrate, le mouvement que présidait François Bayrou. Ce collaborateur n'était pas payé par le parti, mais par un sénateur et un député centriste. Des emplois fictifs, c'est ce qu'il nous a dit aussi lorsque nous l'avons rencontré.
Ça posait pas de débat, puisque tout le monde fait ça. Donc moi, on m'a dit, écoute, on te recrute. Le parti politique n'a pas les moyens de payer. Donc en fait, il y a des parlementaires qui acceptent de donner des demi-contrats. Très bien. Quand vous arrivez, vous venez de votre province, vous avez un garçon qui met tout en place, François Bayrou, qui est ministre, qui vous dit, on va faire comme ça. Vous pensez que c'est pas choquant qu'un sénateur donne un bout de contrat?
Des pratiques anciennes, donc, selon ce témoin. D'après nos informations, rien que pour le mandat européen 2009-2014, le Parlement envisage de demander au Modem de rembourser les salaires de 9 assistants. Je précise que les dirigeants du Modem n'ont pas souhaité répondre à nos questions.
Merci Élodie Guéguin. Votre enquête est à retrouver en intégralité sur notre site franceculture.fr. La météo pour terminer ce journal avec un temps demain ensoleillé sur le nord du pays et plus voilé au sud. Les températures minimales iront de 10 à 15 degrés sur le quart nord-est jusqu'à 18 degrés ailleurs et jusqu'à 21 degrés sur le pourtour méditerranéen. Il fera chaud demain après-midi. Températures qui iront jusqu'à 32 voire 33 degrés, notamment sur le Poitou et le Bordelais.